Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'est pas commode d'être à la mode, c'est pas facile d'avoir du style, disait une amie de Stéphane Bern qui ne parlait pas de lui. C'est important de le préciser, mais de la bonne du curé. Notre modiste, elle, du style, elle en avait et elle a réussi à l'imposer. Stéphane Bern nous raconte la moderne Elsa Schiaparelli.
Shocking Life, c'est le nom qu'elle a choisi pour son autobiographie. Le nom qu'elle a aussi donné à l'un de ses parfums et aux roses éclatants qu'elle a inventées. Shocking, un mot qui résume la vie d'Elsa Schiaparelli, son anticonformisme, sa modernité, l'avance qu'elle avait sur son temps. Elsa Schiaparelli voit le jour en 1890 à Rome, dans le doux murmure des fontaines et la douceur des arbres fruitiers. Sa famille est aisée, mais surtout très cultivée. Son père est un universitaire spécialiste des langues orientales, directeur de la bibliothèque Lincei, installée dans le magnifique palais Corsini. Son oncle, un astronome célèbre, qui repère sur le visage de sa nièce une constellation de grains de beauté rappelant la Grande Ourse. L'enfance d'Elsa Schiaparelli n'est pourtant pas exemple de drame. La mère de la petite fille ne cesse de lui répéter qu'elle est laide, si laide par rapport à sa sœur. Désespérée, Elsa avale un jour des graines volées au jardinier, en parsème ses oreilles et son nez dans le but de recouvrir ce visage qu'on dit ingrat de fleurs. Les germes de son imagination et de son extravagance apparaissent déjà. Les relations avec sa famille ne s'améliorent guère. Quant à l'adolescence, Elsa rédige des poèmes érotiques qui lui valent d'être envoyée dans un pensionnat religieux en Suisse. Elle y entame une grève de la faim pour protester contre les règles de vie qui ne correspondent en rien à ce qu'elle souhaite faire de la sienne. À la première occasion offerte par une amie de travailler au service d'orphelins en Angleterre, Elsa quitte sa famille et l'Italie. En route vers Londres, elle fait étape de quelques jours à Paris. La capitale française est en effervescence. Elle y découvre les grands magasins, les nouveaux bâtiments issus de l'exposition universelle de 1900, comme le Petit et le Grand Palais. Elle est invitée dans l'un de ces bals dont raffole la haute société et pour s'y rendre, crée elle-même sa robe faisant tenir très artisanalement ses métrages de tissu par des épingles dans un style très original. La jupe passée entre ses jambes forme comme un pantalon de zouave et elle porte sur la tête un turban. Arrivée à Londres, Elsa Schiaparelli rencontre bibliquement Wilhelm Friedrich Wendt, un médium reconnu pour son absence de dons mais passionné de sciences occultes. Alors que l'Europe sombre dans la guerre, le couple s'embarque pour New York. Aux États-Unis, Elsa fréquente l'avant-garde artistique en exil, Marcel Duchamp en tête, et accouche d'une petite fille, surnommée Gogo. Mais le mariage s'effrite, et d'après le témoignage d'Elsa elle-même, Willy la quitte pour la danseuse Isadora Duncan. À presque 30 ans, la guerre terminée, Elsa revient en Europe et s'installe à Paris. Elle y fréquente, comme à New York, les artistes les plus en vogue de son temps. Les dadaïstes, Francis Picabia, Tristan Tzara, Man Ray, avec qui elle passe ses soirées au bœuf sur le toit. Les années 20 brassent la mode et les arts sans poser de frontières entre les disciplines. Un jour, Elsa Schiaparelli accompagne une amie chez Paul Poiret, rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors qu'elle essaye un manteau qui lui va comme un gant, le couturier surgit et, charmé par son allure et son goût, lui offre la pièce. Une aubaine pour Elsa qui, sans le sou, vivote alors en dégotant des affaires aux puces. Happée par la mode, elle décide de réaliser ses propres modèles. Elle doit de toute façon gagner sa vie. Sans formation de couturière, la jeune femme doit improviser. Pour échapper au cadre rigide de la couture qui veut qu'une collection propose un vestiaire très formel, composé de tenues de jour, du soir, selon un calendrier saisonnier, Schiaparelli lance un seul produit, le pullover. C'est une démarche radicalement nouvelle. Les premières pièces de Schiaparelli datent de 1927. Ce sont des tricots de mailles en trompe-l'œil. Le premier figure un nœud lavalière blanc sur fond noir. Les suivants imitent des tatouages de marins avec serpents et cœurs percés. Elsa fait la promotion de ses mailles dans les soirées mondaines et remporte un franc succès. Vogue, la Bible à l'époque, qualifie ses créations de chef-d'œuvre. Dans la foulée, la même année, la créatrice ouvre sa maison baptisée pour le sport, rue de la Paix à Paris. Une véritable caverne d'Ali Baba, où se retrouvent suspendues des combinaisons de pilotes d'avion à côté de chandails en point mousse pour le ski, de tailleurs en tweed et de robes de jour. Schiaparelli est une couturière. Elle propose des silhouettes complètes et coordonnées. Des costumes de bain avec poissons sur l'estomac, sortis au sac, serviettes, lunettes de soleil. Schiap, comme elle est désormais surnommée, utilise des matières nouvelles et fluides comme la rayonne, une fibre synthétique d'origine naturelle réalisée à partir d'une pâte de bois. Elle bouscule aussi les codes visuels en abandonnant les tons pastels pour les couleurs vives et les jeux graphiques du noir et blanc. Ce goût du noir, elle le partage d'ailleurs avec sa grande rivale, Gabrielle Chanel. Coco n'apprécie pas cette italienne excentrique qu'elle n'évoque que comme l'artiste qui fait des robes. Mais Schiaparelli ne s'intéresse pas aux prouesses techniques de la couture. Elle a des idées et en confie la réalisation aux talents qu'elle sait repérer, comme Hubert de Givenchy ou Pierre Cardin, qui seront tous deux ses modélistes. Schiap, elle, se concentre sur la direction artistique et s'inspire de ses fréquentations. L'écrivaine Elsa Triolet crée pour elle un collier aspirine composé de perles de porcelaine semblable au cachet du médicament. Mais c'est un autre artiste, aussi excentrique qu'elle, qui va le plus marquer de son empreinte le travail d'Elsa Schiaparelli, un certain Salvador Dali. Schiaparelli et Dali partagent une créativité sans limite et le même goût de l'exubérance. Ensemble, à partir de 1935, ils imaginent un chapeau en forme d'escarpin retourné et des boutons fantaisie en forme d'acrobates ou de chevaux cabrés. Deux robes tout droit sorties de leur imagination marquent aussi et surtout les esprits. Une longue robe blanche ornée sur le devant d'un homard géant couleur sang et un four en crêpe noire au matelassage imitant le squelette du corps humain. Le succès de ces créations permet à Elsa Schiaparelli d'ouvrir une boutique au numéro 21 de la place Vendôme. Le lieu est à l'image de la créatrice et de son imagination débridée. Une grande cage en bambou marque l'entrée du magasin qui propose du prêt-à-porter, des accessoires et des parfums. Une jeune américaine branchée, Bettina Jones, conçoit les vitrines excentriques et audacieuses qui attirent la clientèle et les curieux. La deuxième moitié des années 30 est une période faste pour la marque. Schiap est la première à proposer des collections autour de thèmes. Le Zodiac en 1938 ou la Commedia dell'arte en 1939. La femme Schiaparelli, représentée par Marlène Dietrich ou Catherine Hepburn, porte des vestes aux épaules marquées, parfois exagérées, qui préfigurent le power dressing des années 80. La jupe culotte, la combinaison pantalon, les zips, utilisés de manière apparente comme des éléments décoratifs, choquent autant qu'ils séduisent. La cape Phébus, d'un rose éblouissant et brodée d'un soleil en fil d'or, symbolise tout le style Schiaparelli. En 1940, la moderne modiste est la première à faire fabriquer des bas sous licence. Un accessoire griffé, mais accessible au grand public. Voilà une nouvelle idée de génie. Mais la guerre vient signer la fin de cet âge d'or. Elsa se réfugie aux États-Unis. Quand elle revient en France, à la Libération, tout a changé. Les tissus sont plus chers, Christian Dior renouvelle la silhouette et on attend de la femme qu'elle retourne à son foyer. La maison Schiaparelli ferme en 1954 et sa créatrice s'éteint 20 ans plus tard, en 1973, à l'âge de 83 ans. Dans l'intervalle, son influence n'a pas faibli. Vers la fin de sa vie, Schiaparelli s'habille chez Yves Saint-Laurent et inspire le couturier. Par son expérience de styliste, elle marque profondément la mode et précède l'avènement, quelques décennies plus tard, des créateurs et des directeurs artistiques. Mais ça, c'est une autre histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.